Radio Prague, les informations.
La Chambre des députés tchèques ne créera pas probablement une commission d'enquête sur l'affaire de la privatisation de la société pétrochimique Unipetrol. Visite du ministre tchèque de l'Environnement en Chine. Le radar Vera peut être exporté au Pakistan. Il est fort probable que la Chambre des députés tchèques ne créera pas une commission parlementaire qui se pencherait sur la privatisation de la société Unipetrol acquise par le groupe polonais PKN Orlen. Les députés sociaux-démocrates ainsi que plusieurs députés communistes sont contre la création de cette commission et les voix des députés du Parti civique démocrate, formation principale de l'opposition, ne seront pas suffisantes pour qu'on approuve une telle mesure. L'affaire fait déjà l'objet d'une enquête en Pologne où une telle commission est créée. Le ministre tchèque de l'Environnement, Libor Ambrozek, est parti pour la Chine. Il envisage d'y rencontrer le chef de l'Institut national pour la protection de l'environnement et s'entretenir avec lui, entre autres, sur le traitement des eaux résiduaires, la pollution atmosphérique et sur le développement de nouvelles technologies écologiques. La République tchèque collabore avec la Chine dans le domaine de l'environnement déjà depuis quelques années. Le ministère de l'Industrie et du Commerce tchèque a accordé à la société ERA de la ville de Pardubice en Bohême la licence nécessaire pour l'exportation du système tchèque de radar Vera au Pakistan. Selon le porte-parole du ministère, le Pakistan ne fait qu'emprunter ce système de radar passif. Pour l'acheter, il lui faudrait encore une autre licence. Le système Vera est un appareil unique que l'armée tchèque envisage de donner à la disposition de l'OTAN. L'Union tchèque de protection de la nature a réussi à collecter 63 000 couronnes pour aider le parc national Torres del Paine au Chili. Le parc avait été ravagé en février dernier par un incendie provoqué par un touriste tchèque imprudent. Le feu a dévasté 16 000 hectares de terrain, dont 2 200 hectares de forêt. Le fruit de la collecte sera envoyé à l'ambassade du Chili à Prague. Météo. Ce mardi, fête de tous les Oleg, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie a été clair, à variable sur le nord-ouest, et nuageux à couvert avec quelques passages pluvieux sur le sud-est du pays. Les températures du jour se sont situées entre 16 et 19 degrés en Bohême et entre 13 et 16 degrés en Moravie et en Silésie. Mercredi, le temps en Tchéquie sera presque clair, à variable, après la dissipation des brumes matinales et les températures du jour s'échelonneront de 15 à 19 degrés. C'était les informations de Radio Prague qui ont été présentées par Václav Richter. Merci de les avoir suivies.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinski.
Début de l'actualité en Tchéquie avec encore quelques réactions au résultat des élections législatives en Allemagne, cela par Alexis Rosenzweig. Ensuite, Anna Kubishta revient sur les critiques de l'inaction de la police face à une manifestation de néo-nazis pendant le week-end écoulé. La corruption a été punie pour la première fois dans l'histoire du football tchèque. Et hommage à un explorateur tchèque en Zambie, Tariaka Vysibelova, et le 108e anniversaire de la doyenne des Tchèques. Passez d'agréables moments en compagnie d'une émission dont la réalisatrice est Jarka Fikerlova. L'échec de la CDU allemande motive le parti social-démocrate tchèque, CSSD, alors que les conservateurs de l'ODS refusent tout parallèle entre la situation politique allemande et tchèque. Peut-on toutefois les comparer? Une question que Alexis Rosenzweig a posée à Jan Bureš, politologue à l'université Charles de Prague.
Les sociodémocrates sont au pouvoir dans les deux pays, et cela dans des conjonctures économiques et internationales difficiles, à un moment où des réformes sont nécessaires. Les sociodémocrates entreprennent également des réformes socialement supportables, mais pour beaucoup d'électeurs de gauche, ces réformes apparaissent radicales.
À Prague, comme à Berlin avant les élections, les sondages donnent l'opposition de droite en tête. Pour Jan Bureš, rien de plus normal.
Avant les élections, les enquêtes d'opinion ne représentent pas grand-chose et beaucoup en profitent pour exprimer leur mécontentement. Les gens sont déçus, sceptiques et donnent leur voix dans les sondages à d'autres partis. Mais lorsqu'on en vient aux élections, quand les électeurs savent que ce n'est plus un sondage mais que cela devient sérieux, que leur bulletin peut influencer leur avenir personnel, alors ils sont beaucoup plus prudents.
Pour Jan Bureš, il est possible que les résultats des élections tchèques puissent ressembler à ceux de leur premier partenaire économique.
Oui, certainement, la possibilité existe. La situation ici est similaire à la situation en Allemagne avant les élections. L'ODS dépasse de plus de 10 points le CSSD dans les sondages. Et malgré cela, les électeurs de gauche ont pu voir que ces enquêtes ne sont qu'un instantané fait à un moment donné. Et en Tchéquie, les élections n'auront lieu qu'en juin prochain. Si la situation a pu être renversée en un mois en Allemagne, pourquoi les sociaux-démocrates tchèques ne pourraient-ils pas gagner?
L'immobilisme des forces de l'ordre tchèque devant l'un des plus grands rassemblements de néo-nazis en Europe cette année contraste singulièrement avec leur intervention musclée contre les ravers de la Tchèque Tech d'août dernier. Cette affaire soulève à nouveau des interrogations sur l'action du ministre de l'Intérieur, Anna Kubišta.
La police tchèque n'a déjà pas bonne réputation en soi. Qu'on lui reproche son inefficacité, ses affaires de corruption interne, ses méthodes ou les personnes qui s'y trouvent encore recyclées après 1989. Lorsque František Bublan a été nommé ministre de l'Intérieur en août 2004, l'hebdomadaire politique de référence tchèque Respekt se félicitait de ce choix d'un ancien signataire de la charte 77. Nombreux sont ceux qui, chez les journalistes et ailleurs, ont déchanté depuis. Ce week-end, dans le sud de la Bohême, ce sont près de 500 crânes rasés venus de toutes parts qui se sont rassemblés sous couvert d'un mariage. Des journalistes de la télévision tchèque ont réussi à filmer les participants de cette réunion, faisant le salut nazi et scandant le nom de Rudolf Hess au son de la musique de groupes militants appelant à la haine. Malgré la présence de 80 policiers censés intervenir lors de violations manifestes de la loi, les skinheads ont pu continuer paisiblement leurs festivités. Interrogé par la radio tchèque sur l'inaction policière, le ministre de l'Intérieur František Bublan est resté évasif.
Je suis bien entendu préoccupé par ce qui s'est passé, mais je ne peux pas donner de jugement définitif sur la question parce que j'attends en réalité un rapport d'évaluation. Il y avait des experts sur place et il y a aussi des enregistrements. Je ne veux donc pas faire de jugement au préalable.
Ce n'est pas la première fois que de tels rassemblements d'extrémistes de droite ont lieu en République tchèque. Et ce n'est pas la première fois non plus que la police tchèque se trouve sur place pour maintenir l'ordre et ferme les yeux sur les manifestations agressives des skinheads. Jusqu'alors, les raisons invoquées avaient toujours été l'absence de preuves de violation de la loi qui interdit toute manifestation ostentatoire se référant à l'idéologie nazie. Seulement, cette fois-ci, les caméras de Česká televize étaient là. En dépit de ces images, le porte-parole de la police tchèque, Dušan Klicha, s'est défendu au micro de la radio tchèque.
Nous n'avions pas de caméra, pour ainsi dire, au bon endroit, pour filmer au travers de l'une des fenêtres du restaurant, contrairement à la télévision tchèque.
Quant au Premier ministre Jiří Paroubek, il reste dans l'expectative.
Já jsem požádal pana ministra vnitra, aby mě předložil informaci o tom, zda je to tak, jak
j'ai demandé au ministre de l'Intérieur qu'il me communique ces informations pour savoir si cela s'est vraiment passé comme le disent les médias ou quelles étaient les raisons pour lesquelles la police n'est pas intervenue. Si cela s'est en effet déroulé comme cela a été décrit, alors j'aurais attendu une intervention des forces de l'ordre.
Tak bych očekával, že policie zasáhne.
Si tout le scénario avait un goût de déjà-vu, les images prises par la télévision tchèque ont quelque peu changé la donne. Mais elles ne sont en rien une garantie de plus de fermeté de la part des policiers lors d'un prochain rassemblement de skinheads. Au-delà de la simple République tchèque qui les attire à cause du laxisme des autorités, l'existence même de ces groupes extrémistes en Europe reste une des grandes faiblesses des pays démocratiques que ceux-ci ne parviennent pas à juguler.
On en parle depuis longtemps et ce n'est un secret pour personne. La corruption se porte très bien dans le monde du football tchèque. Cela pourrait bien changer avec le premier verdict d'une cour de justice prononcé lundi contre un arbitre de la première ligue. La cour d'arrondissement de Prague, 3, vient en effet de condamner l'arbitre Vladimir Pastijik à 8 mois de prison avec sursis, accompagné d'une amende de 1 000 euros et d'une interdiction d'exercer de 3 ans pour avoir influencé le résultat d'un match entre l'équipe pragoise Viktoria Žižkov et les Moraves de Brno. Le tribunal s'est appuyé sur une conversation téléphonique que l'arbitre avait eue avec le chef de l'équipe pragoise, Ivan Hornik. Ce dernier avait dit dans son portable « Reste-moi favorable et il y aura une pièce de 30 sous pour toi ». Le prévenu a bien tenté de se défendre en affirmant qu'il n'avait pas compris la conversation, qu'il avait seulement répondu « c'est clair », mais la présidente du tribunal n'a rien voulu entendre. Pour elle, il s'agissait de corruption, car une pièce de 30 sous n'a jamais existé en Tchéquie, et dans le milieu, on sait très bien que cela veut dire 30 000 couronnes, près de 1 000 euros. L'arbitre, Vladimir Pastijik, a fait appel, mais aujourd'hui déjà, les procureurs comptent poursuivre en justice les fonctionnaires de 6 clubs de première ligue et des dizaines d'arbitres soupçonnés d'actes de corruption. Le chef du club, Viktoria Žižkov, Ivan Hornik, est aussi impliqué dans d'autres affaires du même genre. Pourtant, le verdict prononcé contre Pastijik n'est pas révélateur, comme le confirme le président du conseil de discipline de l'Union du football tchéco-morave, Alexander Karoli. Étant donné que ce verdict a été rendu par la cour d'arrondissement de Prague 3 et que Pastijik a fait appel, il faudra encore attendre le verdict de la cour municipale de Prague. En ce qui concerne le conseil de discipline, nous avons une certaine opinion sur cette affaire et nous prendrons notre propre décision sans égard au verdict prononcé par la justice. Je suis persuadé que dans le cas de M. Pastijik, nous respecterons l'objectivité. Un fait est certain, cette première condamnation d'un acte de corruption dans le monde du football tchèque pourrait bien faire réfléchir certains fonctionnaires et arbitres. Le buste de l'explorateur et ethnographe tchèque Emil Holub a été dévoilé à Livingstone, en Zambie, pour rappeler que c'était lui qui, il y a 130 ans, a établi la première carte des chutes Victoria, Jaroslava Gisiblova.
La brève existence d'Emil Holub, décédé en 1902 à l'âge de 55 ans, a été remplie d'explorations. Passionné par l'Afrique, à l'époque pratiquement inexplorée, il a mis le cap pour le continent noir dès ses 25 ans, peu après avoir terminé ses études de médecine. De ces 4 expéditions entreprises entre les années 1872 et 1887, il a rapporté plus de 13 000 objets ethnographiques et naturels. Ses collections se trouvent aujourd'hui dans des musées du monde entier et ses récits de voyage ont été traduits en plusieurs langues. C'est au cours de sa 2e expédition qu'il avait conduit à la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie qu'il a établi la première carte détaillée des chutes Victoria. Après avoir traversé le fleuve Zambèze, Emil Holub a aussi été premier à pénétrer sur les territoires de la tribu ennemie des Makololos. À l'occasion du 130e anniversaire de l'événement, son buste a été dévoilé devant le musée national de Livingstone. Le premier secrétaire de l'ambassade tchèque à Harar, Marie Imbrova, nous a dit qui a pris cette initiative. C'était l'intérêt de plusieurs parties, mais le premier à avancer cette idée a été l'ambassadeur tchèque au Zimbabwe, Jaroslav Olša. Il a contacté le musée de Livingstone, récemment rouvert, qui était d'accord pour dévoiler sur la place devant le bâtiment le buste d'Emil Holub et pour consacrer une place dans ses collections aux informations sur ses expéditions et ses exploits dans cette région. En effet, Emil Holub a énormément contribué à l'identification de peuples africains. Ainsi, il est l'unique source ethnographique crédible pour la connaissance de la culture de la tribu Lozi installée au Zimbabwe dès la fin du XVIIIe siècle. Le buste, créé par un sculpteur zambien, selon les plans tchèques, a été dévoilé en toute solennité samedi dernier, en présence de 200 invités. Ce n'est pas la première fois que la vie et l'œuvre d'Emil Holub sont présentées en Afrique. Deux expositions ont déjà été organisées à Lusaka. Une exposition itinérante sur l'explorateur tchèque a été présentée dans plusieurs villes de Zimbabwe, d'où elle partira encore pour le Botswana et l'Afrique du Sud. Avec l'intérêt touristique croissant pour la chute Victoria, inscrite au patrimoine de l'UNESCO, le nom d'Emil Holub, auteur de leur première carte, apparaît de plus en plus souvent aussi dans des guides et dans la presse africaine.
Jusqu'à quel âge vit-on en Tchéquie? Ce serait 108 ans que fête cette année la doyenne des Tchèques, Madame Františka Novotná, à la maison de retraite de Moravské Budějovice, en Moravie donc. 108 printemps, c'est quand même impressionnant. Il faut se rendre compte que Františka Novotná avait 17 ans quand la Première Guerre mondiale a éclaté. Elle avait 42 ans au début de la Seconde Guerre mondiale. Heureusement, comme elle le disait encore quand elle disposait de la parole, elle n'a pas vécu une troisième guerre. Cette arrière-arrière-grand-mère fête ses 108 années relativement en pleine santé, à part la parole et le mouvement. Selon les infirmières de la maison de retraite, elle ne se plaint de rien. Si toute sa famille venait la voir en même temps, cela ferait une belle procession. Elle a 19 arrière-petits-enfants et 9 arrière-arrière-petits-enfants. Comment se fait-il que grand-mère Novotná ait bénéficié d'une aussi longue vie? Son arrière-petit-fils, Oldřich Novotný, affirme « Ce n'est pas un mystère. Grand-mère a vécu une vie tout à fait normale en travaillant dur et s'occupant de la famille. » Lundi, fêtant son 108e anniversaire, Františka Novotná, couverte de fleurs, au milieu de ses proches et des employés de la maison de retraite, a quand même esquisé un geste de coquetterie. Son fichu, couvrant ses cheveux blancs, s'était légèrement déplacé. D'un geste rapide, elle l'a remise en place. Alain Slivinski et l'équipe de Radio Prague, émission en langue française, vous a présenté Faits et événements. Voici la suite de notre programme.
La République tchèque au quotidien. Alexis Rosenzweig.
Le Lyon Calling Tour, c'est sous ce titre inspiré par les Clash que se cachent trois collectifs musicaux originaires de la région lyonnaise et bien décidés à faire connaître leur musique hors de l'Hexagone. Le Peuple de l'Herbe, High Tone et Meitei Show ont entamé leur périple début septembre par la Suisse avant de remplir les salles notamment en Bosnie, en Slovénie, en Pologne et ici à Prague où nous avons croisé la caravane de ce tour pas comme les autres. Ils ont roulé toute la nuit sur les routes polonaises pour être à l'heure à Prague où leur concert était prévu dès 18h à cause des nouvelles contraintes imposées au Roxy. L'idée de cette tournée à travers l'Europe, de l'Irlande aux Balkans, elle est venue simplement, comme l'explique Enzeng, à la trompette, au clavier et au chant pour le Peuple de l'Herbe.
Il y a trois groupes à Lyon qui tournent bien. On arrive tous à vraiment en vivre et donc on se croise très souvent sur la route. Et le concept d'emmener tous ces gens qui se connaissent bien, qui viennent de la même ville, et de partir surtout jouer à des endroits où on ne serait pas allé individuellement, on va dire. Donc chaque groupe fait profiter aux autres groupes de la petite notoriété suivant les pays où on est. Donc pour iTunes, ils étaient un petit peu connus en Bosnie. Pour nous, c'était un peu plus à d'autres endroits comme l'Allemagne. Enfin, donc du coup, on profite des uns et des autres et c'est ce qui permet de faire un tour d'Europe, ce qu'on n'aurait pas fait. Nous, on tourne pas mal à l'étranger, mais on n'aurait pas fait autant de dates à l'étranger, je pense. C'est une super belle expérience. Bah, de toute façon, trois groupes en tournée, c'est déjà quelque chose. En plus, ces trois groupes, c'est des gens qui se connaissent très très bien. On vient tous de la même ville, Lyon. Et c'était un gros projet à monter, une grosse organisation. Et puis, on passe par des endroits. C'est super, c'est exaltant parce qu'on a joué par exemple en Bosnie, avec toute l'histoire qu'il y a derrière, avec le conflit. On a joué dans des endroits avec des gens qui ont une volonté vraiment énorme. Un décalage avec notre vie, notre petite vie d'occidentaux. Enfin. De pays très développés, on va dire, Donc on a rencontré des gens humainement, c'est une super belle expérience. Et puis on sent que tout le monde est soudé, tous les groupes sont soudés entre eux. C'est vraiment bien.
On a tous envie de faire la fête comme vous. Yes. Mais faites attention, ça bourre par derrière. Il y a des gens qui sont compressés devant. Alors, s'il vous plaît, on continue dans le cool. Easy.
Yo, rude boy. I want one eye to shine.
La ville de Lyon a longtemps été à la traîne derrière les autres grandes villes de France pour le développement des nouvelles musiques. Depuis quelques années, Lyon a fait plus que rattraper son retard. Explication avec Fab et Julien, les frères jumeaux de Hightone.
Il y a eu beaucoup de courants hip-hop qui venaient de Paris, tout ça, quoi. Mais c'est vrai qu'à une époque, Paris, par exemple, était une ville importante au niveau du brassage culturel, de la communication, beaucoup de labels étaient implantés sur Paris, quoi, donc fallait un peu démarcher sur Paris. Aujourd'hui, avec Internet, les labels indépendants peuvent avoir une place un peu partout, et c'est vrai qu'à Lyon, on a regroupé un gros pôle de techniciens, de producteurs et de musiciens indépendants pour créer notre label Jarring Effect. Et donc, c'est l'histoire de certains acteurs de la ville de Lyon qui étaient très motivés et qui ont mis du positif, quoi.
Une explication aussi un peu culturelle, c'est que les trois groupes sont issus aussi d'un quartier bien précis de Lyon qui s'appelle la Croix-Rousse et qui a toujours véhiculé un message un peu rebelle, un peu révolutionnaire déjà il y a plusieurs années, quoi. Donc il y a eu cette culture rock et en fait le dub a été quand même pas mal véhiculé par le rock à travers des groupes comme les Clash, les Rod DC, les Bad Brains.
En fait, toutes les dates qu'on a fait dans l'Est étaient assez réussies, quoi.
Et on trouve vos disques, c'est-à-dire
on trouve des disques du pop de l'herbe à beaucoup d'endroits dans l'Europe, même si il y a une petite audience, quoi. Mais c'est plus dur pour Hightone et Météo, quoi, c'est sûr. Il y a quelques pays où on est distribué, quoi, mais bon, on a un réseau assez indépendant, quoi, donc c'est plus simple de trouver sur Internet.
Donc il faut venir jouer en fait pour les groupes indépendants comme nous, vu qu'on n'a pas des gros moyens de subvention pour appuyer les communications européennes. On fait comme on a fait en France, on fait des concerts, on revient, on rencontre des gens, donc c'est un peu aussi un appel. Moi, s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est clair qu'on est ouvert, vu qu'on est indépendant, à faire des mini-distributions dans chaque pays. Oui, c'est aussi le but d'une tournée comme ça, c'est de rencontrer du monde et d'avancer un peu sur un terrain qui reste quand même un peu d'initié, quoi, mais un peu partout, il y a moyen de distribuer des disques et faire des concerts.
Alors j'ai vu que quand même pour cette tournée, vous aviez réussi à obtenir quelques soutiens, notamment de la région Rhône-Alpes.
Il n'y aurait pas eu de tournée sans les subventions culturelles qui sont arrivées. Mais bon, c'est pour nous, c'est normal en France qu'il y ait de l'argent dans la culture, et même c'est un truc un peu menacé. On tient à défendre un maximum, donc c'est une tournée comme ça dans les pays de l'Est, elle n'a pas lieu sans les subventions, quoi. Ce qu'ils ont pu nous filer par exemple en Bosnie par concert, je pense que ça paye à la limite les bus et la nourriture du jour, quoi.
Ça les paye pas en fait, on essaye d'équilibrer la tournée sur l'ensemble et d'arriver à zéro entre les dates du Nord et les dates du Sud, quoi. Mais c'est clair qu'on espère arriver à zéro et que les dates du Sud étaient loin de pouvoir rembourser les frais qu'impose la tournée, quoi.
Et quand vous dites sud, Prague, c'est le sud, par exemple ?
Non, Prague, c'est le nord. mais on n'en sait rien. Moi, j'en sais rien exactement pour Prague. Comment ça se passe au niveau financier ? Mais pour finir, ouais, voilà, c'est cette tournée-là, donc elle est organisée avec des moyens indépendants, encore une fois, et des demandes de subventions via la ville ou la région. Donc, c'est vrai qu'en France, on a un système plutôt bien pour ça. Où on peut essayer d'avoir des aides, quoi. Et après, il faut rappeler aussi que la tournée, c'était un travail de 2 ans pour Loïc. Donc, on a créé un poste qui est manager de Météo et à travers le label Jarring Effect. Et il a mis 2 ans à organiser cette tournée, quoi. Donc, c'est parce que, voilà, petite dédicace à lui, et en indépendant, Il faut qu'il il a fallu qu'il trouve des contacts dans chaque pays, qu'il organise tout de zéro. Donc, c'est assez difficile pour l'indépendant d'organiser une tournée comme ça. Donc on est plutôt hyper satisfait d'être arrivé à avoir autant de dates et on est super content d'être sur la route malgré la fatigue, vu qu'on joue tous les soirs. Mais on est super content d'être à Prague, quoi.
Et Loïc, le manager de Maytay Show et de cette tournée, c'est lui.
On a parlé pour la première fois du projet il y a environ 2 ans. C'était juste une discussion de bistrot. Et on a commencé à vraiment s'activer dessus à partir de fin 2004. Donc ça fait pas loin d'1 an. C'est un gros projet, donc forcément il demande une grosse masse de travail, de convaincre des partenaires. Mais comme le projet en lui-même a vraiment suscité tout de suite l'intérêt de tous nos partenaires, on ne peut pas dire que c'était difficile. D'autant plus que du côté artiste et équipe technique, il y avait un soutien entier de la part des 30 personnes qui sont sur la route, une réelle motivation de chacun. Donc pour moi, ça facilitait beaucoup de choses de sentir cette pression positive derrière.
Caler une date en République tchèque, est-ce que c'est simple ?
Ça n'a pas été difficile. Disons qu'il y a un réseau qui existe déjà qui s'appelle les Zéro Connexions depuis pas mal d'années maintenant, qui travaillait avec le Palace Acropolis. Donc on y est déjà tous passés, aussi bien Aitone, le Maytay Show que le Pub de l'Herbe. Donc on connaissait Cyril, qui est donc le programmateur et promoteur du Festival Move ici à Prague. Dès qu'on lui a proposé le projet, il a tout de suite répondu oui.
Le programme en langue française de Radio Prague Onde Courte se termine. Merci de votre attention. Vos rapports d'écoute, observations et suggestions seront les bienvenus.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.